Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine, Escale célèbre les 70 ans de la Radio des Nations Unies avec le chef de son unité francophone. Jérôme Longuet a récemment écrit un mémoire retraçant l'évolution de ce média, partie intégrante de l'ONU, dont la création a fait partie des premières décisions prises par la nouvelle organisation internationale.
À l'époque, en 1945-46, lorsque l'ONU a été créée, le média dominant à l'époque, c'était la radio. Par exemple, j'ai pu voir dans mon étude qu'aux États-Unis, bon, qui était un cas particulier, mais 90% des foyers américains étaient dotés d'une radio dès 1935. Après, on a pu voir que pendant la guerre, la radio a joué un rôle ambivalent, à savoir, d'une part, hélas, pousser les masses à commettre ou en tout cas à cautionner des crimes abominables, je pense notamment à la propagande allemande avec Hitler, mais aussi à unir et à mettre en place les éléments de réponse, la rébellion, la résistance, je pense notamment à Radio Londres pour les Français, avec l'aide des Anglais et de la BBC. Donc une radio ambivalente et à l'époque donc un média dominant qui fait qu'à la sortie de la guerre, la radio était incontournable, c'était évident pour les créateurs de l'ONU, après la Société des Nations qui avait déjà eu une radio qui s'appelait Radio Nation, pour les créateurs de l'ONU d'avoir un média qui permettrait rapidement en plusieurs langues, de joindre tout un public dans le monde et de faire passer les idéaux des Nations Unies, à commencer par le préambule de la charte, par toutes les valeurs donc des Nations Unies sur le maintien de la paix, les droits de l'homme, sur le développement, tous les défis de l'époque.
Comment se présentait cette radio à l'époque? En quelle langue et qui émettait ces programmes?
Alors la radio telle qu'elle était conçue, donc, et c'est pour ça qu'on fête les 70 ans aujourd'hui en fait, de l'adoption par l'Assemblée Générale donc le 13 février 1946, donc les différents sous-comités et comités préparatoires on essayait de mettre en place une radio qui soit une radio à la fois exigeante en termes de qualité et en même temps qui puisse joindre des populations et des publics en 5 langues. Il y avait donc le français et l'anglais qui étaient les langues de travail. Et il y avait également le russe, le chinois et l'espagnol. Au début des années 70, la langue arabe a été ajoutée à cela. Et à l'origine, c'est assez curieux de le voir, mais il y avait une ambition très forte. Et au-delà de ces 5 langues avec lesquelles les Nations Unies fonctionnaient, il y avait à peu près 25 langues au départ qui étaient prévues, donc 5 plus 25, une trentaine de langues pour essayer de joindre le maximum de public possible. Et la radio à l'époque, c'était véritablement le seul média qui pouvait permettre de fédérer, de construire une nouvelle société, une nouvelle communauté internationale à la sortie, on le rappelle, d'une Seconde Guerre mondiale qui a été atroce et qui a vu énormément de violence.
Alors la radio s'est-elle transformée au gré de son existence au cours des décennies?
Ah bien sûr, alors la radio donc elle commence à la suite de 46, en fait c'est véritablement en 47 que ça va vraiment commencer. Elle va commencer au départ un peu classique, un peu comme la radio d'ailleurs de la Société des Nations. On parlait beaucoup de discours, on mettait un micro sur la table d'un secrétaire général adjoint et on le faisait intervenir de façon assez institutionnelle. Aujourd'hui, on dirait peut-être un peu pompeuse.
Ici, la Radio des Nations Unies. Aujourd'hui, de la grande salle de l'Assemblée au Palais de Chaillot.
Il y avait un côté un peu désuet qui fait qu'on communiquait en mettant de l'emphase sur les discours, en mettant beaucoup de priorités au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale, ces discours où les intervenants parlaient directement aux auditeurs. Et il y avait aussi des journalistes qui synthétisaient, mais on était encore dans l'idée qu'il fallait éviter au maximum de favoriser une sorte de propagande, ou en tout cas que le message de l'ONU soit perçu comme une propagande.
Alors, est-ce que justement le mandat et la mission de la radio ont reflété l'actualité internationale au cours de son évolution?
Alors, mon étude ne m'a pas permis d'entrer dans le détail. Ce qui est clair, c'est que très rapidement, après la création de la radio, on entre dans la période de la guerre froide. Et donc, aussi bien le bloc soviétique d'un côté que les Américains et leurs alliés de l'autre vont essayer de faire passer leur message à travers la radio des Nations Unies. D'un côté, on est quand même aux États-Unis, il faut le reconnaître, et donc la radio a été notamment largement diffusée par un moyen qui était un moyen technique, qui n'avait nullement de dimension politique, qui était la voix de l'Amérique. Et clairement, la voix de l'Amérique, c'était perçu par certains pays, je pense notamment aux pays du bloc soviétique, comme une radio de propagande américaine. Or, les contenus de la radio même, donc des Nations Unies, étaient des contenus indépendants. C'était des contenus qui, justement, essayaient de veiller à toutes les valeurs et principes inscrits dans la charte des Nations Unies. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a eu des crises, il y a eu clairement des tensions entre ces deux blocs-là.
Désormais, l'Afrique appartient à elle-même et nous nous opposerons à toute tentative de porter atteinte à son indépendance et à sa liberté.
Il y a quand même l'époque des indépendances.
Laissez-nous libres de remplir notre destinée comme nous vous abandonnons volontiers à vos complications, à vos tyrannies et à vos guerres.
Alors avec les indépendances, il y a plus de membres. Au départ, donc, on le rappelle, en 45-46, il y a 51 membres, avec ensuite l'apparition de nouveaux pays dans les années 50, fin des années 50 et 60, et clairement avec le mouvement d'indépendance et de décolonisation, je pense notamment à l'Afrique et à l'Asie, on va bien sûr voir une multiplication des pays qui souhaitent recevoir dans les différentes langues les émissions de la radio des Nations Unies. Là, on va avoir des radios de tout pays, de toute finalement obédience politique. Je pense aussi bien à la radio nationale cubaine, je pense à des radios en Afrique, vont demander d'avoir des émissions des Nations Unies. Et évidemment, ça va augmenter le réseau de radios, toujours, on le précise aussi, sous le format d'ondes courtes qui était privilégié, mais avec l'apparition maintenant aussi à cette époque-là d'enregistrements qui étaient envoyés par valise diplomatique ou par d'autres moyens à des radios partenaires qui rediffusaient ces émissions, notamment des émissions magazines, puisqu'il fallait un certain temps pour acheminer ces bandes audio. Plus tard, ce sera d'ailleurs des cassettes. Mais avec ces moyens-là, qui étaient à la fois développés et relativement limités, la radio a continué à augmenter son audience et à essayer d'accompagner, à essayer de couvrir et de sensibiliser les nouveaux pays et les nouvelles populations devenues indépendantes.
Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les temps forts de la radio ?
Un peu au fur et à mesure des décennies, des progressions, de l'élargissement du nombre de membres, également des crises politiques, de la guerre de Corée par exemple, mais il y a eu aussi des drames qu'ont connu l'ONU, je pense notamment en 61 la mort du secrétaire général d'Aga Marshall. Il y a son successeur qui était un Birman, le Myanmar aujourd'hui, qui était U Thant, était un ancien justement directeur d'une radio nationale dans son pays, et là aussi il a continué avec la radio à essayer de sensibiliser et de régler certaines crises. Il y a également par rapport à l'apartheid et donc à l'Afrique des programmes spéciaux et spécifiques qui ont été mandatés par l'Assemblée Générale avec la composition d'une unité complète qui avait pour but de mettre en place et de créer des émissions de radio qui étaient diffusées depuis l'extérieur de l'Afrique du Sud, en Afrique australe, dans les pays souvent voisins ou limitrophes, et qui permettaient de sensibiliser dans leur langue les populations pour que justement on arrive à terme à mettre un terme à ce régime ONI de l'apartheid. Et donc ça a été une expérience très particulière qui donc a été arrêtée ensuite bien sûr au début des années 90 avec notamment la libération puis l'élection de Nelson Mandela. Mais l'unité contre l'apartheid a été pendant longtemps une sorte d'unité symbolique qui servait de référence et beaucoup de ses anciens membres ensuite ont fait les beaux jours des autres unités linguistiques de la radio.
Alors aujourd'hui, la radio émet dans 8 langues, 6 officielles plus 2, et est chargée de produire des contenus qui reflètent l'activité de l'organisation. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre au niveau des lignes éditoriales et justement pour que ces messages soient plus ou moins bien reçus selon les contextes régionaux ?
Cette radio, c'est une radio institutionnelle, c'est une radio internationale. Donc comme beaucoup de radios, et par rapport au journalisme, il y a des règles claires de déontologie, d'éthique, auxquelles s'ajoutent les règles spécifiques de l'ONU. Donc la diversité de langues, comme vous le soulignez, est assez importante encore aujourd'hui au sein de la radio des Nations Unies. On n'est plus à 33 langues, ça a été le record, mais on est donc à 8 langues, 8 unités fonctionnelles, plus 3 langues encore, notamment l'ourdou, qui sont des langues de diffusion de nos émissions. Au-delà des 6 langues donc officielles, on a notamment le kiswahili et le portugais, avec d'ailleurs une double dimension dans le portugais, puisqu'il y a le portugais, on va dire, africain et le portugais brésil, qui collent à la spécificité donc de ces langues, qui sont des langues qui véhiculent et qui intéressent énormément de locuteurs dans le monde, et dans plusieurs continents qui sont clés aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, chaque unité de la radio, à travers donc une grille et à travers des directives qui sont bien précises, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'éditorialiser, comme on dit en anglais. On essaie de couvrir de façon neutre, de façon objective, en donnant la parole donc en termes de déontologie, en présentant les deux aspects d'une crise ou quand il y a deux parties, pour essayer de couvrir au mieux et le plus honnêtement, le plus fidèlement et le plus rapidement aussi possible l'actualité.
Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Jornal da ONU em Nova York.
Говорит радио Организации Объединенных Наций.
You have been listening to United Nations Radio. I'm Nikki Chadwick.
Alors, est-ce que, selon vous, la radio demeure un média pertinent aujourd'hui à l'ère de l'Internet, de la télévision, des téléphones portables ?
Mais la radio, c'est quelque chose qui résiste, c'est quelque chose qui dure et qui parcourt finalement les époques. C'était un média, comme je l'ai dit en 1946, qui était le média fort, le média roi. C'était le média qui permettait, et on le rappelle, à des gens qui sont aussi analphabètes, qui sont illettrés, qui sont dans toute une série de situations et d'accès difficiles, d'être informés avec relativement peu de moyens. La radio est restée pertinente forte malgré l'arrivée de la télévision. On pensait qu'elle allait disparaître, qu'elle allait laisser place à l'image. Eh bien, pas du tout. En fait, la radio, ça permet aussi, encore aujourd'hui, sous différentes consommations, de pouvoir être utilisée aussi bien en conduisant qu'en bricolant, qu'en faisant la cuisine chez soi ou toute autre activité. Et donc, la radio, aujourd'hui, elle est encore pertinente avec de nouveaux supports, avec les smartphones, avec les applications, avec le satellite qui a également révolutionné pour partie donc, la diffusion de ce média. Et elle reste, et je pense qu'elle va rester encore, un média pertinent et qui est adapté à son époque.
L'importance de la radio, ça nous donne beaucoup de son.
Une radio, c'est un moyen de communication qui vise une masse. Elle permet de donner à tout moment l'information aux populations, de les sérénisées quant aux événements qui se passent dans un endroit ou dans une région.
L'importance de la radio... On passe aux radios de maintien de la paix ?
Oui.
25 ans de radio de maintien de la paix. Alors, quel rôle a été accordé à la radio au sein des opérations de maintien de la paix? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à intégrer un volet radio?
La radio, ça a été pendant toutes les zones et les temps de conflit, clairement une radio qui a été utilisée en termes politiques et même en termes militaires. Et la radio, rapidement, a été un élément permettant de maintenir, d'encourager la paix. Mais aux Nations Unies, il y avait en même temps, et c'est paradoxal, il y avait une sorte de défiance un peu des militaires à s'exprimer sur les objectifs militaires qu'ils allaient poursuivre, sur les opérations en cours, etc. Et donc, il faut attendre en gros la fin des années 80 aux Nations Unies pour que les opérations de maintien de la paix qui ont été créées bien avant se dotent de radios, donc au début des services un peu timides, et véritablement en 92-93 au Cambodge, avec la fin de la guerre froide, on peut mettre en place une opération multidimensionnelle très très lourde, 6000 hommes, et également une radio qui va permettre à un véritable substitut du gouvernement à l'époque, c'était une autorité provisoire qui était mise en place dans cette opération, la PRONUC pour l'acronyme français, de mettre une radio qui allait préparer un processus électoral et faire, et ça c'est un résultat, et c'est quand on parle d'impact, c'est très important, que 90% des électeurs donc cambodgiens, le jour des élections, quelques mois après, se sont rendus aux urnes pour voter, donc décider de leur régime. Alors le problème de ces radios, elles ont la durée de vie d'une opération de maintien de la paix. Pour par exemple donc, la PRONUC donc, au Cambodge, une fois que l'opération s'est terminée, on a replié les émetteurs, on a replié tout ça dans des conteneurs et hop, ça a été renvoyé vers une base logistique à Brindisi en Italie. Et ces émetteurs et autres ont servi à d'autres services, à d'autres opérations. Ce qui est dommage parce que, et c'est un des défis très importants encore aujourd'hui, la pérennisation de ces radios. C'est bien d'installer une radio pendant le déploiement d'une opération, c'est encore mieux. Ça a un coût, c'est clair, mais c'est encore mieux de la maintenir et justement de continuer parce que la consolidation de la paix, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. C'est un processus qui s'étale dans le temps.
Il y a quand même eu, après, plusieurs radios qui ont été installées en Afrique.
Donc il y a eu plein d'autres radios, des radios soit service, donc avec quelques personnes, soit des radios très lourdes. Quand on parle de radios très lourdes, on pense bien sûr aux gros exemples que constitue Radio Okapi en RDC, qui depuis donc une quinzaine d'années maintenant, avec un partenariat avec une fondation, Fondation Hirondelle, a permis aujourd'hui d'avoir grosso modo 40 millions d'auditeurs par semaine, ce qui est énorme, et d'être la radio de référence donc des Congolais dans leur langue, menée par des Congolais, des journalistes congolais, et donc avec un environnement à la fois onusien et également de la société civile.
Alors, quelle relation entre la radio de l'ONU et les radios de maintien de la paix?
Mais à mon goût, et je risque de me faire taper sur les doigts par mes supérieurs hiérarchiques, je pense qu'il n'y a pas assez. Autant nous avons des partenariats au quotidien entre journalistes, donc entre Radio Okapi et l'unité francophone de la Radio des Nations Unies, je pense à ONU-CFM en Côte d'Ivoire, je pense avec une très bonne coopération avec Radio Mikado au Mali. Il y a également Gira FM en République centrafricaine, il y a Minusta FM. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait renforcer un peu cette coopération et vraiment faire en sorte que lorsqu'on pense à créer une radio sur le terrain, le département de l'information dont je fais partie ne soit pas opposé ou ne soit pas complètement tenu à l'écart du département des opérations de maintien de la paix. Je pense que c'est deux branches indissociables, deux branches qui ont des expertises mutuelles et il faudrait vraiment qu'on renforce cette coopération pour que ça soit beaucoup plus productif.
Quel avenir pour la radio?
La radio de maintien de la paix en tant que telle, je pense qu'on va multiplier le déploiement de ces radios. On est en train de mettre en place, notamment le département des opérations de maintien de la paix, une forme de directive justement pour éviter les erreurs passées, essayer aussi de voir donc cette fameuse pérennisation et cette transmission. Pour la radio en tant que telle des Nations Unies, je pense que les médias sociaux et la radio, c'est complètement complémentaire. Les vidéos également, la télévision aujourd'hui, c'est quelque chose qui va de pair. Il faut juste qu'on réorganise un peu tout ça et qu'on voit comment l'un s'articule par rapport à l'autre. Mais il y a de très beaux jours devant la radio.
Et c'est avec Jérôme Longuet que se referme cette édition d'Escale consacrée à la radio de l'ONU. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal de la Radio des Nations Unies sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.